Miséricorde. Nous rendons visite à M. l'abbé Paul, aumônier à la clinique de la Miséricorde, qui se propose d'évoquer son expérience pendant l'occupation à Aulnay-sous-Redon.
Il est facile, d'ailleurs, de retenir la date de l'arrivée des Allemands à Aulnay-sous-Redon. C'est le 14 juillet 1940. Je les vois encore sur la place de la mairie, en rang, puis gagnant leur cantonnement, installant la commandanture à l'école des garçons. J'ai eu la visite, un soir que j'allais fermer l'église, d'un soldat allemand, autrichien surtout, qui appartenenait aux Allemands des Sudètes, et il n'était pas nazi du tout. Son père avait perdu sa situation parce qu'il n'avait pas voulu adhérer au Parti National Socialiste. Il était caché dans le fond de l'église, presque sous le clocher. Et au moment où j'allais sortir, je vois surgir devant moi un grand gars, en treillis, qui se présente en un français impeccable. « Monsieur le curé, je suis séminariste. J'ai 20 ans et... je me permets de vous dire que nous avons interdiction de parler avec le clergé français. » Je lui réponds, nous tâcherons de passer outre sans nous faire croire. Il me demande alors de, le matin, de lui donner la communion, car les Allemands avaient réquisitionné deux des pavillons de l'hôpital d'Aulnay, qui en comportait trois, deux grands pavillons, et il était là donc comme infirmier. La chapelle était à part, jolie petite chapelle, la sacristie en sous-sol, donc la chapelle elle-même avec l'autel à la hauteur d'un premier étage. C'est nécessaire de dire ce détail-là, parce que tous les matins, la messe était célébrée à la chapelle d'Aulnay-sous-Redon. Il y avait 18 religieuses infirmières qui étaient là, de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Et laissant la porte de la sacristie en sous-sol ouverte, tous les matins, au moment de la communion, j'entendis cette porte s'ouvrir tout doucement, quelque part dans l'escalier, et mon séminariste s'agenouillait ou la dernière marche, je lui donnais la communion, il repartait aussitôt. Il avait été convenu entre nous que le soir, je laisserai ouverte la porte de sortie du grand jardin du presbytère. Il y avait un petit jardin anglais dans le presbytère, mais derrière, un jardin qui faisait au moins 30 sur 30. Et cette petite porte donnée sur les champs. On peut dire que pendant 2 mois, il est venu tous les soirs, vers 9h, 9h30, 10h même, 11h quelquefois, et nous pouvions parler, puisqu'il parlait et comprenait bien le français. Il m'a surtout, un jour, il est resté à Aulnay-sous-Redon à peu près 2 mois, parce que vers le 18, ou le 20 septembre, il vint me faire des adieux, me dire, nous partons. Nous partons pour la conquête de l'Angleterre. Et il m'a apporté, justement, une carte de géographie où on avait réduit, c'est le fait qu'il faut remarquer, on avait réduit la largeur de la Manche, hein, surtout entre Cherbourg et Plymouth, et entre Calais et Douvres. Pour leur inspirer une grande conscience, il n'y avait qu'un pas à faire pour aboutir en Angleterre. Ça ne s'est pas fait, Dieu merci. Puis, nous nous sommes perdus de vue. 3 années sont passées, 4 années sont passées, et tout à fait à la fin, alors la paix venait d'être signée, je reçois une lettre de lui, me disant qu'il a été fait prisonnier. D'abord qu'il avait été blessé en comme parachutiste infirmier en sautant dans l'île de Crète. Puis il a été remonté au Danemark, car du Danemark il devait sauter en Suède et en Norvège. Prisonnier, il me demande des renseignements au sujet du séminaire que Mgr Rodin venait d'ouvrir au Coudray auprès de Chartres. Car Mgr Rodin faisait pour les séminaristes et prêtres allemands ce que les Allemands, il faut bien le reconnaître en toute justice, avaient fait pour les séminaristes et prêtres français, prisonniers. Surtout pour les séminaristes, il y avait un camp qui servait de séminaire. Les cours étaient donnés régulièrement et même il y eut des ordinations, comme Mgr Rodin voulut le faire au Coudray auprès de Chartres.
C'était
à 7 km de Chartres, auprès du camp d'aviation. Il y est resté à peu près une année. À ce moment-là, Aunay était détruit. Et j'étais réfugié, moi, à Bokeh.
À quel moment Aunay a été détruit? À un débarquement?
Oui, après.
Ah oui?
Oui, à ce moment-là.
Mais alors,
je fais suivre, je vais revenir après sur tout ça, sur les passions. C'est pour achever l'histoire de mon Ernest Paul Rommel, il s'appelait. Et bien que nous soyons très malheureux, pris un peu de tout à Bokeh, j'avais pu intéresser mes paroissiens à Bokeh. Ils ont été d'un dévouement épatant, très généreux. On l'a ravitaillé puisqu'il n'avait absolument rien. Il y est resté une année, une bonne année d'ailleurs. Puis je reçois de lui un petit mot me disant « Je suis rapatrié par la Croix-Rouge parce qu'il venait de faire une pneumonie. » Et sa santé ne permettait pas. On l'a renvoyé chez lui et ses parents habitaient à Munich, en Bavière. Bon, il est devenu prêtre et il est maintenant provincial d'une congrégation allemande autrichienne, du frère Palotin. Et a gardé l'amour du français. Il le parle mieux qu'il ne le fait maintenant. Mais il est resté très fidèle, très reconnaissant à ce qu'on avait fait pour lui, à tous les Français. Il est venu d'ailleurs me voir ici il n'y a pas longtemps. Et c'est avec vous savez, un plaisir extrême que nous nous sommes retrouvés. On a évoqué nos vieux souvenirs d'Aunay. Voilà. Et alors, je reviens à Aunay maintenant. Les premiers mois, bon, les Allemands sont installés, il y a des alliés et venus, nous avions très très peu de contacts, sinon nous avions été obligés de tenir compte de la loi du plus fort pour ce qui était le blackout, c'est surtout ça, sortir la nuit, les Auschwitz. Hein, oui. Et puis nous avons eu en vers 1942, c'est ça, au plus fort de la bataille pour Stalingrad. Nous avons eu une division qui venait justement de ce siège de Stalingrad et il fallait voir dans quel état de misère, tant au point de vue habillement, au point de vue physique, au point de vue moral, étaient ces soldats allemands. On peut tout de même avoir pitié de ces gens-là, au point de vue humain. La preuve, j'ai su après par le chef du détachement, le lieutenant Snirs, qui devint le chef de la commandanture, tous ces détails-là. Car, soit dit en passant, ce lieutenant Snirs était professeur de français, je crois à Aix-la-Chapelle, donc il parlait un français impeccable. Et c'était un Rhénan avec des sentiments, je crois, beaucoup plus français que des sentiments prussiens ou allemands ou nazis. Il n'y a pas de doute. Il l'a prouvé d'ailleurs dans les semaines qui vont suivre. Arrivé donc en 1942, il s'installe. C'était un homme doux, parlant donc bien français, et qui lui, certainement, n'a été rempli d'intentions droites, juste envers les Français. Il l'a prouvé, car son détachement, son régiment, a été à peu près au moins, est resté au moins une bonne année au nez. Et il a pu voir, prendre contact avec la population, Au fond, il n'y a pas eu beaucoup d'histoires dues aux soldats d'occupation pendant cette année-là. Et je maintiens grâce à lui. Je vais en donner un exemple. Un jour, le planton de la commandanture vient me chercher, me disant, monsieur le curé, le lieutenant Snirs voudrait bien vous voir pour demander votre avis. Je vais. Et dans la grande, sur la grande table de son bureau, il me fait voir un monceau. Il y a peut-être 10 cm d'épaisseur. De lettres anonymes. Contre telle ou telle famille, ou donnée, ou de la région. Et il me dit, monsieur le curé, je suis écœuré de voir l'attitude de certaines familles qui profitent de nous, les occupants, pour vider leur querelle, pour se venger. Et il me donne l'exemple de deux familles, me demandant, et c'est là que je remarquais sa délicatesse, c'est pas obligé de le faire, monsieur le curé, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que je dois faire? Il s'agissait d'une rupture de projet de mariage entre deux, d'où la plainte en feu. Reprocher aux yeux de l'occupant quelle ou telle chose, et c'était généralement faux. Alors je lui dis, écoutez lieutenant, faites donc venir les deux familles, menacez-les un petit peu tout de même de les punir, en rigueur, et puis qu'ils se taisent, ils restent tranquilles. Écoutez, ces dénonciations, ces violations-là terminent, car c'est honteux de la part des Français, devant en présence des troupes d'occupation. Ça a porté, car nous n'avons plus entendu parler de rien du tout. Un autre point de vue dont je me permets de parler, c'est que j'avais trouvé en lui, en ce lieutenant Sears, hein, non seulement un Français impeccable, mais un musicien remarquable. Et un jour, il me demande la permission d'aller au grand orgue, que justement, même pendant l'occupation, j'avais réussi à reconstruire à voler. Un bel instrument, trois claviers, pédaliers. C'était l'ancien cavalier-école de la cathédrale de Coutances, hein, qui avait été racheté par mes prédécesseurs, mais qui était arrivé à bout de souffle. Un orgue très tout neuf, hein, un orgue électro-pneumatique, et on peut dire qu'il a été payé par la générosité des gens. Je dis ça au point de vue ravitaillement, il a été payé à coups de kilos de beurre. Que l'on met, on achetait ça et on faisait un peu une cagnotte pour payer notre orgue. Et c'est surtout la tréfilerie du Havre hein, qui nous a donné 14 km de fil de cuivre pour toute la canalisation électrique de l'orgue électropneumatique. Voilà. Et je reviens à mon lieutenant Snirs, c'était un organisme remarquable. Et c'est là où j'ai pu constater comment les Allemands, car je fais moi-même de l'orgue, comment les Allemands interprétaient Bach et comment nous, Français, nous le jouions de notre côté. Nous allons beaucoup trop vite, alors que les Allemands prennent leur temps, on détaille toute la fugue de Bach. Et évidemment, ils ne se doutaient pas de ça. Je restais assez dans la sacristie pour l'écouter jouer. Il avait même pris, voyez-vous, pour vous montrer la matière, la délicatesse en même temps de cet officier allemand. Je lui avais dit, mon lieutenant, vous êtes disposé de l'ordre comme vous voudrez, mais je me permets de vous faire remarquer que nous sommes limités par le courant. Je n'ai pas fait, et je le dis tout simplement, ce qui s'était, paraît-il, passé à Caen, où on avait refusé l'ordre de Saint-Pierre. C'est une parenthèse que je veux. Il aurait tout simplement, comme on a dû faire à Caen, réquisitionné l'ordre, il n'y avait rien à dire. Il me dit, monsieur le curé, ne me tracassez pas pour la question électricité. Et même, il y avait un geste, je dirais, de bienveillance, de gentillesse. Hein. Il apportait avec lui une paire d'escarpins, hein. Il enlevait ses grosses bottes. Et remettez ces escarpins pour ne pas abîmer le pédalier de l'orgue. Voilà, le genre. Au fond, nous n'avons eu qu'à nous louer de son passage.
C'est
peut-être
pratique aussi dans les
Cévennes, non? Oui, de son passage à Aulnay-sur-Rhône. Ils sont repartis à un an à peu près. Alors, plusieurs troupes se sont succédées pour venir refaire la santé au repos de ça, mais le passage était très court. C'est l'impression que je garde, moi, de l'occupation allemande. Oui.
Et alors, vous êtes arrivé ainsi jusqu'au 6 juin?
Alors, nous sommes arrivés jusqu'au débarquement au 6 juin. Oui. Et alors, donc, ce débarquement au 6 juin, tout tremblait même à Aulnay, d'ailleurs. Les avions venaient faire leur virage dans cette région-là, entre Villers-Aulnay et Villers-Bocage, pour retourner après sur la... Alors, pas d'embarquement, sur ça. Alors, nous sommes doutés que c'était un débarquement, pas lié. Et la première alerte pour René a été le dimanche 11 juin. J'avais supprimé la grand-messe pour une messe basse à 9h30, pour ne pas prolonger le séjour de beaucoup de monde, car les gens pratiquaient beaucoup à Aulnay-sur-Rhône. Pendant donc, et au beau milieu de la messe, les avions passent, l'âge des bombes au carrefour de la route donnée à Villers-Bocage, donnée à Harcourt et donnée à Condé-sur-Marot. Un carrefour important point de vue communication. Bon, évidemment, hein, l'église se met à tout le monde la peur dans l'église. Hein. Alors, je recommande aux gens, mes frères, restons-en là, vous allez rentrer chez vous, vous allez sortir par petits paquets, longez les pour ne pas attirer l'attention qu'on vous voit, et peu importe, rentrez vite chez vous. C'était la première alerte à ce moment-là. Et, évidemment, cela aurait dû, et ça s'est produit pour plusieurs, nous-mêmes nous inviter à faire attention. Car le dimanche 11 juin, moi j'appelle ce jour-là l'alerte, faites attention, et le lundi 12 au matin, exactement à 6h48, hein. Alors là, deux vagues d'avions viennent et ils prennent la rue principale, puis la place de la mairie, comme cible, lâchent leurs bombes, et on peut dire que tout le centre donné, du bourg donné, a été détruit. Aulnay-sur-Rhône, à ce moment-là, avait à peu près 1800 habitants. Il y en avait un petit millier dans le bourg, qui constituait le bourg, le centre commercial. Oui. Et heureusement, il y avait des villages. Vous verrez après. Oui. Alors, ce lundi matin, à 6h48, hein, alors, un bombardement en règle, et qui, démolissant tout le centre de la ville, fait déjà 108 morts. Le presbytère, qui ne... à l'encontre des maisons qui bordaient le trottoir, le presbytère, lui, avait, disons, la chance, hein, d'avoir devant un jardin anglais. Et c'est ce qui explique que les bombes, qui ont détruit toutes les maisons voisines, n'est-ce pas, les bombes sont tombées dans le jardin anglais, et dans le jardin potager, si bien que j'ai eu l'impression que le presbytère basculait, et de fait, j'ai reçu sur la tête, j'achevais ma toilette, j'ai reçu sur la tête la corniche de ma bibliothèque. Oui. Et quelques minutes plus tard, j'aurais été certainement écrasé par les bombes, car je devais être à la chapelle de l'hôpital pour 7 heures, et c'est arrivé à 6h48. Oui. Alors, devant le désarroi complet, on n'aurait jamais pensé, oui, on n'avait même pas prévu. Alors, les secours d'urgence, c'est un petit peu hein, fautif, là, mais eux, sinon ils sont pris comme ça,
pas de pioche, pas de pièce, rien. Les dégâts étaient énormes,
C'était énorme comme dégâts.
Énorme.
Oui, bien. Alors, le feu qui s'est mis dans tout
ça. Je pense que d'ailleurs, tous les gens qui pouvaient venir à votre secours étaient paralysés eux-mêmes.
Et puis alors, Ils étaient tués eux-mêmes.
Ils étaient tués eux-mêmes.
Eux-mêmes. Ah oui, c'était tout le sang qui a pris.
Ça, il y avait pas ce
truc. Je vois mes voisins immédiats de la droite du presbytère. Les deux familles s'étaient réunies ensemble, car ils croyaient dans un abri sûr, pas dans au fabriquaient le pain auprès du four, hein, du boulanger. Hein. Ils étaient 14. Ils ont été tués 14 sur 14. Là. Et d'autres, mes voisins de gauche, c'était monsieur le directeur et ma directrice de l'école, le public des garçons et des filles, ils ont été tués. Il n'y a que le presbytère qui a été touché, évidemment. Mais
vous pouvez me rappeler combien de tués il y a eu en explosion? Combien de tués? 200, je crois.
Le lundi matin, il y en a 808.
8
morts. Et les morts que nous avons pu identifier après tout, d'ailleurs, bon, la liste est en fin de la petite plaquette ici fionnée, j'en ai compté 164, exactement. 164. Pour une population d'à peine 1800 habitants. C'est énorme.
Et oui. Et encore, étant donné les
et 27 les, familles, les 27 familles ont disparu totalement.
Ah, oui, tout à fait. Tout
complètement.
Non, encore, je trouve que c'est assez miraculeux quand on voit l'ampleur des destructions. Hein? On aurait pu penser que presque toute la population était ensevelie.
Écoutez, mademoiselle, si il y avait eu à Oné que le dernier bombardement dans la nuit, au début de la nuit du jeudi 15, vers minuit et demi, qui a été suivi une heure après par l'unique bombardement d'Ebrecy, eh bien, s'il n'y a eu que ce seul bombardement, il y avait 1600 habitants tués. Car on ne fut rasé, à part de même quelques villages. Il y avait eu des gens de tués dans certains abris, ou dans les petits chemins creux, dans les villages. Oui. Ça aurait été la destruction complète.
Et alors, tous les survivants ont donc évacué obligatoirement, on est sur donc.
Tout le monde perdait la tête, il fallait y aller.
Hein. Et ils sont partis vers quelle région? Partout, un peu partout où ils pouvaient.
Un petit peu partout. Ils sont montés vers Lassie, Saint-Pierre-la-Vieille, Hautefontaine, Campandré, Alpongrain, Campandré, Longvillers, tous les villages, tous les bourgs tout autour d'Aunay. Vous êtes certainement très bien accueillis. Très très bien, oui. Alors le mardi, le jour du mardi, c'est la journée des incendies. Ça commençait surtout donc dans ces ruines, là, qui étaient du centre de la place de la mairie. Mais évidemment, ça s'est propagé dans la ville. C'était lamentable, on aurait dit, un feu d'artifice formidable. Moi, je me souviens j'étais réfugié dans un champ, pas très loin du centre, même peut-être à 150 mètres de mon presbytère. J'ai passé la nuit là, appuyé le dos à un pommier. Il y avait mon vicaire avec moi. Il y avait ma bonne qui était là aussi. Nous étions là, les bras croisés, adossés à un pommier. C'était fulgurant, je me calme de dire. C'était un feu d'artifice formidable. C'était abominable, hein, voyez, réellement. Voyez. Et tout a gagné petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est ce mardi-là. Le mercredi 14, nouveau bombardement. Et j'ai assisté moi-même à ce bombardement-là. Je revenais d'un faire une visite tout de même des blessés, des malades, voir un petit peu, car il fallait soigner les blessés. Hein. Je me suis appuyé au fossé, au bord de ce petit chemin-là, et j'ai assisté au bombardement qui a détruit alors le quartier d'Aunay de la rue de Caen, de la rue de Villers, et un peu aussi la rue d'Arcourt. Alors, ça a achevé la destruction par incendie d'Aunay. Et la mairie y est passée également à ce moment-là. Si bien qu'on a. C'était le vrai désert. On peut dire qu'au soir de ce mercredi 14 juin, Aunay avait disparu. Et alors, je ne m'explique pas, plutôt aussi, je vais vous dire pourquoi, ce bombardement du 15, jeudi 15, où, à partir de minuit et demi, ce bombardement-là a duré 35 minutes. C'était infernal. Je me trouvais à l'abbaye d'Aunay, à la fromagerie. Ils avaient fait un abri avec des grosses balles de paille formant mur de protection le long des rochers. Je disais aux gens, n'ayez pas peur. C'était tellement un bruit de ferrage, écoutez, il doit y avoir une bataille de chars formidable, probablement. Je me rappelais aujourd'hui hier, moi. Hein. Et c'est la délivrance, tâchons de tenir le coup, que le bon Dieu nous protège. Et je remarque du sang entre nous. On retrouve les prières de l'enfance quand on sent que ça vous craque comme ça. Il hein. n'y a plus d'espoir en personne sinon dans le bon Dieu. Oui, et que de gens, vous savez, on retrouve la foi. Croyez-moi.
Oui, parce que c'est-à-dire que ça semble très proche, hein, la dernière minute.
Mais la dernière minute, vous, c'est peut-être pour vous.
C'est juste que dit ce sentiment.
C'est juste de ça, oui. Et alors, c'est ce qui me fait dire dans le petit de la cupléquette, ici, plus haut, ce qu'a dit un poète, je ne sais pas si c'est Suétone, peu importe, un poète latin qui a dit ceci, « Essiam periere ruiné », les ruines elles-mêmes ont péri. C'était fantastique. Comme vous avez pu voir dans les photos que j'ai passées, c'est complètement rasé.
Surtout cette histoire.
Oui. Et d'après les renseignements alors que M. le maire d'Aunay, qui était à ce moment-là le docteur Laken, a pu avoir dans la suite, le bombardement fut fait par la RAF et on a parlé de 6500 tonnes de bombes. 650 000 kilos de bombes, si vous voulez.
Et ma foi, je crois que quand on n'a reçu que 10 000 tonnes.
Mais je crois, c'est expliqué, cette destruction totale.
Oui, il n'y avait que le clocher qui...
Il y avait que le clocher qui restait tout seul là-dedans. C'est la photo la plus... C'est la photo la plus... La plus, à mon avis.
Tout à fait dantesque.
La plus... C'est dantesque tout ça.
Absolument.
Voilà.
C'est vrai,
c'est vrai.
Et les Allemands ont dû montrer, j'ai vu dans une revue allemande, le clocher utilisé, vous savez, qui restait. Je ne m'en suis pas servi, mais c'était particulièrement frappant.
Ah oui, oui. Et comme je le dis, n'est-ce pas, j'étais dans ce clocher-là qui ne tenait plus que, disons, sur trois pattes, hein, c'est tout, il était fissuré du haut en bas, hein. Et bien, les trois cloches étaient restées. Et je rends hommage une fois de plus, hein, à M. Hibert, qui était charpentier, menuisier, qui les a sauvés au risque de sa vie. Je lui dis, M. Hibert, ne risquez pas votre vie pour les cloches sans. Il dit, si, je lui ai les avoir. Il les a descendus. Il mérite une reconnaissance, mon père.
Oui.
Vraiment. Oui. C'est là où on voit, vous savez, l'entraide qu'il y a eu à ce moment-là.
Il y a eu beaucoup de soutien entre les habitants.
Après, justement.
De solidarité.
Oui. C'est là où on voit, il faut. Je dirais, bon, la misère est toujours atroce, malheureuse, mais elle a de bons côtés.
Et alors,
et vous rend plus charitable, croyez-moi, de tous vos côtés.
Qu'êtes-vous devenu ? Alors, vous avez quitté Aunay ?
Et alors, bon, la plupart des gens étaient réfugiés donc dans les petits bourgs d'alentour, d'autres dans certaines fermes, tout de même des villages qui tenaient encore debout. Et moi, j'étais réfugié chez M. Petitpas, à la ferme de la Lande, au-dessus de Beauquet, sur le territoire de Ménier-au-Grain. Et là, nous étions, il a accueilli 72 réfugiés donnés, avec une bonté, une charité, au point de donner tout ce qu'il avait, absolument. Et alors, on allait faire le pain dans une autre ferme, on allait... C'était un mouvement, vous savez, de charité fraternelle, vraiment. Oui. Oui. Et alors, je suis donc arrivé chez lui, à peu près le 15 juin, il m'a accueilli chez lui, où était réfugié ma sœur. Mon vicaire, lui, était parti. Alors, dans une ferme sur le territoire de Saint-Georges d'Aunay, auprès de l'abbaye. C'est là encore chez des cultivateurs qui ont été d'une bonté, et d'ailleurs ils l'ont prouvé dans la suite, hein, puisque quand il a fallu réorganiser la vie administrative, la vie intellectuelle, les écoles, la vie religieuse donnée, et on a trouvé des dévouements admirables. Oui. Heureusement que les deux grands bâtiments de l'abbaye donnée, qui dataient donc du XVIIIe siècle, comme le style, le genre de l'hôtel de ville de Caen, la même chose, oui, tenaient encore. Alors c'est là que tous les services publics sont installés.
Alors on a tout sauvé cela à toute mais... Où est-ce que tout a été détruit?
C'est à 1500 mètres donnés,
voyez-vous. Ah oui, c'est ça.
Oui, il y a eu quelques bombes qui sont perdues. Enfin, ça plaît debout.
Oui.
Ça plaît debout.
Oui. Et c'est resté, ça a été reconstruit autour.
Après, on a remis tout ça un petit peu.
Oui, c'est ça. Ça
c'est bien, c'est bien.
Et de là, vous êtes...
Alors, je suis resté, moi, donc, dans cette ferme jusqu'au 18 juillet. Et on sentait la bataille se rapprocher. Parce que cette ferme avait une situation au point de vue topographique assez élevée. Et je suivais avec des jumelles la bataille qui s'est déroulée au nord de Villers-Bocage. J'ai mis entre deux, on voyait le feu des batteries, des batteries allemandes. C'était formidable. Et c'est là que j'ai vu. Je disais un jour mon bréviaire, dans cette photo ferme, vers 3 heures. Donc, à vol d'oiseau, de la ferme de la Lande à Villers-Bocage, il y avait 9 km, pas plus. C'est là que j'ai vu près de, j'en ai compté au moins 350 avions alliés qui s'étaient réunis là. J'en ai vu descendre deux pour la tir allemand, descendre un, et je ne peux pas m'empêcher de dire à mon vicaire. Qu'est-ce qu'ils vont prendre par là? Qu'est-ce que ça présage, ça? Oui. Ça présageait tout de même. C'était là qu'est devenue l'importance du front. On a posé la question, pourquoi ce massacre, cette destruction donnée? Mais il faut tout de même reconnaître que quelqu'un qui étudie bien, qui est penché sur sa carte d'état-major, il faut tout de même convenir que Aulnay était un centre de communication important. Car donné, sur cette place donnée, partaient trois routes qui alimentaient trois secteurs du front extrêmement importants, le front de Tilly, le front de Villers-Bocage et le front des Brecies. Donc le front qui préparait le mouvement de tournement des Anguilles de Montgomery, partant de Tilly, passant par Villers, pour déborder Carpiquet.
Oui, c'était important.
Oui, c'était très important. Et donc ces trois routes alimentaient le front, mais trois routes venant du sud devaient être coupées pour empêcher l'arrivée des renforts allemands.
Oui.
Surtout qu'à ce moment-là, à un moment de la destruction donnée, il y avait eu une tempête dans la Manche, et le port provisoire d'Arromanche, car j'étais curé de Romanche, je connais bien le coin, de la pointe du Grouin à Anel, c'était là qu'était le port artificiel. Il y avait une tempête qui avait disloqué en...
Suite de l'interview de l'abbé Paul.
Pourquoi la destruction de... Alors, je crois avoir dit que si on se penche sur une carte d'état-major, on voit, au point de vue communication, que Cournet est une véritable plaque tournante. Pendant la guerre, la bataille de Caen, on passe trois routes qui alimentaient, qui partaient vers le front de Tilly-sur-Seine, vers le front de Villers-Bocage et vers Évreux. Donc, trois routes également venant du sud, il fallait à tout prix empêcher l'arrivée des renforts allemands. Donc, la fameuse division d'Ausreich qui avait fait le massacre de Radour-sur-Glane. Et en même temps, au même moment de ces bombardements donnés, avait donc eu cette tempête en Manche qui avait démantelé le port artificiel d'Arromanche, empêchant les renforts d'arriver à un moment crucial de la bataille pour Caen. Donc la destruction donnée a certainement contribué à empêcher l'arrivée des renforts. Un autre problème que je pose, et alors celui-là, on ne peut pas donner, je dirais, admettent ce massacre donné, étant donné que pendant six semaines, je suis resté en pleine bataille à la ferme de l'Allan, et allant et venant voir mes paroissiens disséminés dans les villages, dans les granges, partout, peu importe. Durant ces six semaines, je n'ai jamais vu un avion allemand. Les Alliés disposaient d'une maîtrise absolue de l'air. Et cela jusqu'au 18 juillet, où les SS se repliant sur la ferme où j'étais réfugié, m'ont prié de partir. Dès le lendemain matin, la bataille de ce côté-là était terminée. C'était le 18 juillet. Caen était donc délivré, mais il fallait achever de dégager tout le côté, tendre vers l'Orne pour repousser les Allemands vers la vallée de la Seine, dans la haute Normandie. Et c'est comme ça que s'est préparée la fameuse poche de falaise. Car Aunay fut délivré le 5 août. 44. Alors, je pose la question, étant donné que les Alliés avaient la maîtrise absolue de l'air, est-ce qu'on n'aurait pas pu nous prévenir par le lancement de tracts? On a dit qu'ils avaient été envoyés et qu'il y avait un léger vent qui les avait détournés de leur voie, de leur chemin. Mais quand il s'agit de démolir une ville complètement, de raser, puisqu'ils avaient la maîtrise de l'air, on ne lâche pas des tracts à 1000 mètres d'altitude, on rase les toits afin d'attirer l'attention des gens, on aurait pu tout de même. Et je l'ai dit alors au mois d'août, alors que vous avez vu cette place déserte tournée, le hasard a fait que je me suis trouvé nez à nez avec un état-major anglo-canadien. Il cherchait à se repérer d'ailleurs dans ce désert, et c'est moi-même qui l'ai repéré, de indiquer le chemin, en leur disant, monsieur, voyez le travail que vous avez fait. C'est un travail d'assassin. Je me demande comment ils ne m'ont pas arrêté tout ça. Car tout de même, vous aviez la maîtrise de l'air. Il fallait nous envoyer des traces, nous prévenir. Même si c'était nécessaire de détruire le pays, on l'aurait accepté. On rebâtit une maison, mais on ne rebâtit pas un homme comme ça, les vies humaines. C'est pas possible, hein.
Et alors, vous avez quitté
Aunay
sur Odon à quel moment?
Le 18 juillet 1944, le jour de mes 46 ans.
Et pour partir
Eh bien, partir, devenir ce que j'appelle le pitoyable voyageur sur les routes. Voilà.
Oui, c'est ça. Alors, vous êtes resté sur les routes.
Et alors, je suis resté donc, je n'ai quitté la région que sur la menace des SS. Parti demain matin, sans un beau fusil, tout le monde. Et je suis parti avec les derniers survivants d'Aunay, un petit qui me demandant, monsieur le curé, voulez-vous que partions avec vous? On dit bien sûr que oui, mais nous sommes partis sur les routes, tout simplement. D'étape en étape, le réfugié, la chose pitoyable qui est un réfugié, bien accueilli partout généralement, oui. Sauf dans un patelin que je n'ose pas dire pour ne pas lui faire tort.
Oui, j'ai connu aussi ça.
Du tout, oui.
Vous savez...
Quand je pense que le curé de l'endroit, c'est long les habits, il faisait payer l'eau qu'il donnait aux gens.
J'ai connu ça, il faisait payer leur pain.
Alors, j'en suis donc parti le 18 juillet pour arriver dans la Mayenne, où l'accueil a été d'une charité, d'une bonté. Je garde un souvenir ému de cette hospitalité, de la générosité des gens de la Mayenne, à partir de Monseigneur l'évêque de Laval, Monseigneur Richaud, qui est devenu archevêque de Bordeaux. Et lui-même me dit, voulez-vous rester dans mon diocèse? Moi qui avais fait l'autre guerre, je me disais, je ne sais pas combien de temps celle-là va durer, que je sois au moins utile à quelque chose. Il me dit, écoutez, j'ai une paroisse à vous proposer. Ça s'appelle Molière. Tout à fait au sud de la Mayenne, vous êtes à 40 km d'Angers. Oh, dit Monseigneur, mais heureusement, je suis là, mais dit mes 11 compagnons de milieu, n'ayez pas peur. Il donne un coup de téléphone au curé de Chemazé. On prépare tout à Molière, et le soir, quand nous sommes arrivés au presbytère de Molière, ça nous a tellement semblé bon de trouver des lits avec des draps. Nous n'avions pas couché dans des draps depuis le 6 juin.
Et vous avez quitté fréquent cet endroit? Vous y êtes resté combien de temps?
Oh, écoutez, pas longtemps, parce que tout de même, on pense au pays, on peut penser à Honnay. Alors, refaire une paroisse et tout ça.
Vous êtes rappelé à Honnay?
Je suis resté. Je suivais évidemment la radio, on avait un petit poste de radio, on écoutait les progrès, un peu trop lent à notre avis, à notre gré, les troupes alliées. Et puis alors nous apprenons justement, c'était je me rappelle avoir fêté le 15 août là-bas, et donc c'est vers le 20 août, un soir, nous étions assis sur les marches du presbytère à prendre l'air, causant entre nous. On entend une vague d'avions qui frôle, qui rase les toits, et je vois les tricolores. Ah, dit, ça y est. Et à 11h du soir, j'entends tchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii C'est tout près de Château, Montier, Molière. Alors je dis à mes paroissiens, quand nous étions là, une douzaine, je dis, allez, les gars, soyons heureux, ça va aller voir encore demain. Et le fait, le lendemain matin, j'apprends que la deuxième DB était à Château, Montier. Alors évidemment, on a bondi là-bas pour aller voir et tout ça. Puis là, alors moi je dis, c'est pas le tout, hein. Il faut repartir là-bas. On me prête une bécane, j'emmène avec moi deux jeunes données que j'avais repérées par là, dans tout ce coin-là. Et nous avons fait le trajet dans la journée de Molière, du sud de la Mayenne, pour arriver à Rouenet, je savais bien que je ne trouverais rien.
Non.
Mais je voulais savoir ce qui était devenu au Bouquet.
Et
j'ai eu la joie de constater que Bouquet avait été épargné, pillé, mais épargné. C'est triste, un village. 100 personnes, les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, le bétail qui traîne, les bétails, les vendrait, tout ça, c'était, oui. Et alors, oui, en que tout. Alors, je suis revenu, là-bas, je dis, allez. Et j'avais trouvé sur le bord de la route une camionnette abandonnée. Oh, je dis, tu es malheureux d'aller celle-là, il y a un état de marche, il n'y avait pas d'essence. J'ai dit aux deux gars qui étaient avec moi, nous allons nous mettre dans la camionnette de la route, parce que les renforts américains avançaient, et on les gênait, bon, parce qu'ils viennent, essence, ils m'ont rempli de réservoirs, et le retour, rentrer, repartir avec d'autres camionnettes. Hein. Et le lendemain matin, je repartais avec la camionnette, et puis à l'heure de deux ou trois personnes, pour réorganiser, bloquer, et c'est là où on est dans le désert, c'est triste, un village désolé comme ça. Puis alors, il fallait faire attention, on ne pouvait pas prendre de l'eau, on ne savait pas que les puits étaient empoisonnés. Les Allemands avaient piégé certaines portes, il y a eu quelqu'un de tué, justement, avec une petite mine qu'il avait mis sur le pas de la porte, ainsi de suite.
Et oui. Ça a été nommé curin de Saint-Julien, à quelle époque?
Eh bien, je suis resté, il a donc fallu réorganiser tout ça, le culte. Hein. Moi, j'étais resté à Bouquet, avec environ 400 habitants. Et mon vicaire était de l'autre côté, dans une ferme auprès de l'abbaye d'Aunay. Il y avait presque une bonne lieue, 4 km largement, à faire pour rejoindre cette abbaye d'Aunay. Mais c'était pendant un an, c'était abominable, d'une tristesse. Il fallait passer, traverser, pour n'importe quoi, hein, pour aller au boucher, pour aller à la mairie, pour aller partout, il fallait traverser ces ruines données, c'était ça, une odeur de cadavre pendant un an, tout ça, esclocher tout ça. C'était atroce. On a souffert, vous savez, de voir ça de cette vie-là. Mais alors, consolé par le dévouement si gentil, si aimable des gens, la bonne entente fraternelle, comme ça. Et je tiens à signaler aussi les secours que les jossistes de la banlieue Est de Paris, de nos gens et du Perreux, de leur gentillesse et des habitants. Ils nous ont amenés dans deux camions gazogènes dans ce temps-là, en plein hiver, il y avait Daniel, je me rappelle ça, en plein hiver, en décembre 44. Hein. Ils nous ont amenés 32-34 tonnes de tout. Depuis cuillère ou fourchette, un verre à boire, des mouchoirs, même des lits, ou des sommiers, des matelas, tout ça ira. Alors on a fait une distribution pour tout ça. Oui. Et le premier ravitaillement, c'était les Anglais qui nous ont apporté des sacs de riz, des sacs de haricots, des sacs de terre, et ainsi de suite. Oui. Et le détail le plus amusant, ma première lampe pour y voir clair, de faire tout de même, c'était une boîte de sardines. avec du fioul que j'avais été prendre dans un petit coin américain, là, et un bout de mèche, c'était la première veilleuse pour fêter le retour. Oui. Et j'ai une paroissienne très aimante qui me dit, écoutez, monsieur le curé, je vous laisse ma maison. Je vais aller habiter chez maman, il y a assez de place chez elle, et installez-vous, ça sera le presbytère de la Bouquet.
Et
alors, donc, on a rebâti le bourg provisoire avec le maire qui fut admirable dans ce coin provisoire, les baraques et tout ça. Puis, alors, au mois de la vie reprenait tout ça, les plans étaient tracés, l'église également, d'ailleurs, le plan d'église avec monsieur le maire et monsieur Chirot, l'architecte de Rouen. Et nous avions donc, on a fini d'archiver, je crois, M. Chirol, à Rouen. Et nous, donc, Monseigneur me dit, écoutez, bon, ça repart à Aulnay. Monseigneur Picot me dit, vous savez, il faut aller à Saint-Julien, car il n'y a rien de fait, qu'est à refaire. Je dis, bon, c'était un peu difficile d'accepter et de refuser à mon évêque. Enfin, je suis parti tout de même. J'ai quitté Aulnay le 14 décembre 1947.
Pour vivre notre expérience.
Oui, c'est bien.
Vous avez été un pionnier.
Mais j'étais.
Passionnant. Et vous, en
quel marché, oui. J'étais à Aulnay le curé le plus heureux et le plus malheureux. Oui. Le plus heureux devant la bonté, la générosité, la gentillesse des gens, la piété des gens, des chrétiens dans nos campagnes du bocage là. Et puis alors, le curé du malheureux, voir tous ces 164 morts, dont la moitié de la jeunesse donnée était tuée. Voilà.
Écoutez, vous nous avez apporté un témoignage particulièrement émouvant. Merci.
C'est une chose due à la vérité historique.
On vous entendra peut-être un jour nous parler de la reconstruction de Saint-Julien. Merci.